c'était le délicat de d'accompagner la pierre espèce, de voir comment ça se passe au Québec, à Montréal ou au Canada en général. Et puis, on a une autre invitée, invitée par Patricia, pardon, qui vient du Sénégal, donc qui gère aussi un lieu et qui nous présentera comment ça se passe. On va essayer que chacun, dont on est nombreux, on va parler jusqu'à la fin de la journée, hein, mais que chacun essaye en 10 minutes, 15 minutes de présenter ses choses. Chloé aura peut-être un peu plus de temps. Elle reviendra aussi après la présentation de chacun, avant qu'on puisse parler ensemble aussi, parce que c'est le but du jeu. Elle nous présentera aussi la charte qui a été d'un travail qui a été mené par la Coordination nationale des lieux infirmières indépendants. Donc, je vous présenterai ça à la fin de la présentation de chacun. Et après, on pourra discuter ensemble. Voilà. Donc, Chloé, tu veux nous raconter un petit peu
actif,
et puis après, actif vers la Coordination nationale et pourquoi Théma est venu dedans aussi.
Alors, le réseau Actif, c'est un réseau francilien, donc de lieux intermédiaires, lieux artistiques et culturels indépendants, qui réunit aujourd'hui 31 lieux sur l'ensemble de l'île de France. Le réseau, en fait, s'est constitué en 96, donc il y a bientôt 20 ans, autour d'une logique de structuration et d'accompagnement de lieux qui, à l'origine, étaient plutôt des cafés-musiques, et puis très rapidement, le réseau est devenu un réseau pluridisciplinaire. C'est un réseau qui s'est constitué d'une charte et donc qui finalement réunit aujourd'hui 30 lieux qui respectent cette charte. La première des questions, je dirais le cœur du réseau Actif, c'est cette question de l'autonomie et de l'indépendance en fait. On devrait sans doute parler davantage d'interdépendance parce que la plupart de ces lieux sont soutenus par la puissance publique, mais en tout cas, ce sont tous des lieux issus d'initiatives privées, issus de la société civile. La grande majorité sont créés à la base par des équipes artistiques, mais pas que, il y a aussi des associations. Cette charte, donc il y a cette question de l'autonomie du projet, de la capacité des acteurs à définir leur projet, mais bien sûr dans une logique d'intérêt général et qui répond à des problématiques concrètement sur plusieurs points. La question de l'accompagnement à la création, ce sont tous des lieux d'accueil en résidence qui accueillent et accompagnent des équipes artistiques sur des projets. La question de la rencontre avec le public, donc voilà, on en parlait tout à l'heure, mais je pense qu'on reviendra dessus aussi dans les discussions. Ce ne sont pas des lieux de programmation, c'est-à-dire qu'aucun des lieux du réseau sont dans une logique de construction d'une programmation. Néanmoins, les équipes qu'ils accueillent en résidence, l'accompagnement va jusqu'à la rencontre avec le public. Donc, malgré tout, il y a une logique de diffusion qui peut être, suivant les lieux, de 1, 2, 3 soirs jusqu'à quand même des logiques de série. Donc, il y a quand même vraiment cette problématique de la diffusion qui est prise en considération. C'est des lieux qui ont un ancrage territorial très fort, qui se posent la question du territoire qu'ils investissent, avec vraiment une logique de développement territorial, de travail avec les habitants, d'inscription dans le champ social, sociétal. Enfin voilà, s'investissent dans la vie publique, je dirais, du territoire où ils sont installés. C'est vraiment... je le fais un peu rapidement. Je pense que dans la charte, quand je vous présenterai tout à l'heure la charte de la coordination, on pourra revenir davantage sur ces points-là, parce que forcément, c'est aussi des points qui se retrouvent. Donc, c'est la charte du réseau Actif. Le réseau, il s'est constitué autour de logiques de mutualisation à la base. On était vraiment sur comment on partage des outils, des services, et puis aussi beaucoup des savoir-faire, en fait, en échange de savoir-faire, de pratiques, etc. Donc très très concrètement, c'est une grande part de l'activité du réseau qui est constituée notamment autour des métiers de l'administration et des métiers de la communication et de la relation au public. Il y a des groupes de travail d'échange de pratiques avec parfois des intervenants, voilà, par exemple sur l'administration, quelqu'un qui vient présenter la réforme sur la formation professionnelle, etc. On réalise une veille juridique, administrative, fiscale, sociale qui tous les mois est envoyée à l'ensemble des adhérents. On a un service de traitement de la paie mutualisé. Donc au-delà de la question du traitement de la paie, c'est aussi comment le réseau peut être un endroit de ressources pour ses membres et donc d'accompagnement à la gestion sociale. Voilà, on est vraiment sur ces dynamiques d'échange, d'accompagnement. On va retrouver la même chose du côté de la communication, où là, ça va être des choses très concrètes, l'accompagnement à la réalisation de newsletters, langage HTML. Enfin voilà, on est vraiment sur un éventail large d'accompagnement qui peut être très concret, très technique, à vraiment de l'échange de pratiques. Et on a également constitué un fonds de solidarité financière, parce que comme je disais, c'est actif, c'est vraiment un réseau solidaire, c'est aussi la question de comment on s'entraide, et donc on a constitué un fonds qui permet aux structures du réseau qui seraient confrontées à des problématiques de trésorerie, de solliciter ce fonds, et donc voilà. Si vous le souhaitez, je rentrerai plus dans les détails, mais pareil, encore une fois, là, au-delà de la question du prêt, il y a aussi la question de comment différents lieux du réseau portent un regard sur la gestion économique et financière d'un lieu, l'accompagnent, etc. Voilà, un réseau donc autour de la question de la mutualisation, avec malgré tout une question de très vite... La co-construction, c'est-à-dire se dire que les acteurs de terrain sont légitimes à co-construire les politiques publiques étant elles-mêmes concernées directement par ces questions. En 2010...
Ouais, tu allais peut-être justement par rapport à cette relation...
Voilà, c'est ça que j'allais dire. En 2010, en fait, le réseau, c'est vraiment... a souhaité s'impliquer davantage sur cette question. 2010, ça correspond aux élections régionales. Et en fait, en Ile-de-France, il y avait le groupe Europe Écologie Les Verts qui avait annoncé dans son programme le souhait d'accompagner 100 fabriques de culture. Les élections ont lieu. C'est une majorité PS qui a été élue avec Julien Drey, vice-président à la culture, qui annonce dans son programme de mandature le souhait d'accompagner les fabriques de culture. Sans préciser davantage ce qui est entendu derrière le terme « fabrique de culture ». Et à ce moment-là, le réseau actif s'est dit « Ok, les fabriques, c'est nous ». Voilà, nous, on s'est toujours appelé lieu intermédiaire, lieu artistique et culturel indépendant, mais les fabriques, c'est nous, on y va. Et sachant que petit à petit, le projet de Julien Drey, en tout cas de la majorité, s'est précisé, et il était question de construire une fabrique par département. Et alors là, on s'est dit non, il en est hors de question, on est sur le terrain, il y a déjà une quantité incroyable d'initiatives qui existent, qui se battent sur le terrain et qui vont, vous le savez sans doute, survivre. Et non, il est hors de question qu'encore une fois, la puissance publique, on soit encore dans une logique descendante, on reconstruise des outils, sans forcément en plus se poser la question de la façon dont ils vont être... financé par la suite sur le fonctionnement. Donc le réseau actif, qui déjà à l'époque était plus d'une vingtaine de lieux, s'est dit, donc c'est quoi une fabrique? Nous, on est les fabriques, et on a entrepris tout un travail de définition, de définition de ce que c'est qu'une fabrique, qui bien sûr reprenait, quelque part un peu la charte que je vous ai présentée, enfin des éléments d'entrée du réseau actif, mais on a un peu poussé la question. On s'est aussi posé la question de qu'est-ce que serait qu'une politique publique de soutien à ces lieux. Bon, voilà, on s'est dit, ok, c'est des lieux, donc il y a la permanence, il y a besoin d'un soutien au fonctionnement. Enfin, vous le savez sans doute, mais c'est quand même... On est tous soumis à des logiques d'appel à projet et une logique de suractivité pour essayer de survivre. Et c'est finalement, à force, c'est aussi... totalement épuisant dans tous les sens du terme d'ailleurs, et du coup aussi c'est des lieux, ils ont besoin de soutien, d'aide au fonctionnement et d'aide à l'investissement, parce que bon, il y a des lieux, il y a des problématiques de travaux, de remise aux normes, etc. Voilà, on a produit de l'écrit, donc vous en avez des exemplaires à disposition, je reviendrai là-dessus, mais en tout cas nous on a produit une contribution écrite. Parallèlement, il faut savoir qu'on n'était pas seul, hein, il y a notamment le groupe Europe Écologie Les Verts qui a commencé à organiser des rencontres publiques qui réunissaient, enfin pas des rencontres publiques, des temps de concertation qui réunissaient bien sûr le réseau actif, mais largement au-delà. On a commencé à échanger qu'est-ce que serait qu'une politique publique de soutien en fabrique idéale, disons. Donc là, ça a duré pratiquement un an, hein, mi-2010, mi-2011. Enfin, ça a été très long. Le réseau actif a aussi organisé de la rencontre publique, avec à chaque fois, on invitait trois élus de la majorité. Il y avait quelqu'un du Front de Gauche, donc Philippe Camot, Corinne Ruffet de Europe Écologie et Vert et Jérôme Pizzeri du PS. À chaque fois, ils étaient invités et il y avait un dialogue avec les acteurs de terrain. C'est aussi ça qui nous a vraiment permis d'avancer parce qu'à chaque fois, on les questionnait, il y avait des engagements qui étaient pris, etc. Enfin, on a vraiment été fort là-dessus et pas que le réseau actif, mais bon, très... on a poussé les choses. Et ben, quand même, au bout d'un moment, Julien Drey n'a pas eu le choix d'organiser officiellement une concertation. Bon, ça faisait un an qu'on concertait déjà acteurs et élus, mais en tout cas, officiellement, la concertation s'est enclenchée. Et puis, ben, y a eu trois ateliers, hein, trois demi-journées. C'était un peu court, mais bon, voilà. Le dispositif a vu le jour et... Bon, je ne reviendrai pas là-dessus, mais c'est un dispositif qui quand même reprend largement des éléments de la contribution du réseau actif, au-delà des choses qui ont été construites par les acteurs dans la concertation. Donc, quelque part, là, c'est une grande avancée, grande victoire, je dirais, du terrain. On est quand même passé de la construction d'une fabrique par département à un soutien à des structures plutôt issues de la société civile, sur du fonctionnement, sur de l'investissement, avec vraiment une prise en compte de leurs problématiques. Je ne vais pas aller plus en détail là-dedans, mais tout ça est raconté dans... Voilà, on s'est dit qu'il fallait aussi qu'on revienne sur toute cette construction. Il y a aussi des déceptions, mais bon, bref. On,
ça, tu pourras aller voir, on en reviendra
peut-être. Fort de cette expérience, et aussi de la déception que ça entraînait. Et dans un moment où nous, en tout cas en région Île-de-France, mais j'imagine que ce n'est pas la seule région, la DRAC déconventionnait petit à petit les compagnies avec Dieu. Donc finalement... beaucoup de lieux intermédiaires, lieux de fabrique. On s'est dit, bon, cette dynamique-là qui s'est passée en Île-de-France, il faut absolument qu'on l'élargisse, en fait, à l'échelle nationale. J'en ai pas encore parlé, mais le réseau actif est membre de l'UFISC, donc Union fédérale d'intervention des structures culturelles, qui réunit une quinzaine de réseaux, fédérations et syndicats d'employeurs du spectacle vivant et des arts plastiques, dont est également membre Théma, que j'imagine vous connaissez tous, sinon tu reviendras dessus, Jean-Christophe. Et là, aussi à cet endroit-là, ben, cette question de relative des lieux intermédiaires, donc finalement ce que je disais à l'instant, le déconventionnement des compagnies avec lieu, le fait de, que l'État concrètement se ressente sur les structures labellisées, se faisait de plus en plus sentir avec voilà, du coup des lieux qui ferment. On s'est dit, bon, il faut qu'on s'empare de cette question. Le réseau actif a donc rassemblé plusieurs, ben voilà, tous les réseaux et fédérations syndicales de l'UFIS qui le souhaitaient.
Il y a eu un appel fait donc, au sein de l'UFIS, qu'il y a aussi bien le FNCC, donc le cirque, les arts de la rue, les musiques actuelles, frappe, les arts plastiques. Donc il y a quand même un certain nombre de plusieurs champs disciplinaires de la création artistique. Donc du coup, c'était vraiment, et effectivement, ce que tu peux préciser par rapport à Actif, on a aussi des membres de Théma qui font partie d'Actif. Oui. Donc on avait déjà une oreille attentive et un œil attentif à ce qui se passait à Actif via la NEF, par exemple. Mmh. Voilà, il y a un certain nombre de...
Et du coup, on a organisé ce groupe de travail. Et donc là, pour le coup, vraiment transdisciplinaire, on s'est vraiment posé la question... de ce qu'on pouvait faire pour agir et là pour un peu remettre en action et défendre ces lieux qui étaient quand même dans une situation d'urgence. Et donc on a tout de suite décidé l'organisation d'un forum donc, janvier, qui s'est tenu en janvier 2014. Donc voilà, il a fallu le préparer. Hein, ce forum, c'est du temps déjà de réflexion, de partage entre ces différents réseaux et organisations. Et fin janvier 2014, pendant deux jours, c'est tenu à Mantes-la-Jolie, au collectif 12, le Forum national des lieux intermédiaires et indépendants. C'est deux jours d'ateliers, d'échanges, de réflexions. Il a réuni quand même 150 lieux de toute la France. Donc c'était une réussite, nous étions très satisfaits.
Et une très grosse dynamique.
Ouais. Et à l'issue, voilà, une forte dynamique et vraiment la volonté de se mettre en mouvement pour défendre ces lieux-là et aller sur une logique là aussi de co-construction à l'échelle nationale. Et donc ce forum se termine par la constitution de la coordination nationale des lieux intermédiaires et indépendants. Donc janvier 2014. Depuis, cette coordination, je ne sais pas si j'en parle maintenant ou si... enfin, de ce qu'on a fait là depuis 2 ans, la coordination
très vite,
en fait.
Ouais, oui.
Très vite, on s'est dit que bon, voilà, on était quand même 11 réseaux et fédérations là, du coup, autour de la table à constituer le comité de pilotage de cette coordination, avec vraiment la volonté d'absolument très très rapidement redialoguer avec les lieux, les structures de terrain qui étaient présentes au forum. On s'est donc pour cela doté d'une charte qui reprenait vraiment, mais j'y reviendrai plus tard, hein, mais qui reprenait les valeurs, une logique de définition de ce qu'on entend par lieu intermédiaire et indépendant, nos engagements et qu'est-ce qu'on veut défendre au sein de cette coordination. Et puis on a organisé des rencontres, des débats. Enfin, l'idée, c'est vraiment l'objectif que se donne cette coordination, c'est de défendre les lieux intermédiaires et indépendants à l'échelle nationale. Et de, pour ce faire, ben, développer et accompagner le développement de réseaux plutôt régionaux, enfin, en tout cas locaux, en se disant que ben, voilà, c'est aussi par là que ça va se...
Ça, c'est que l'idée, quoi. C'est comment être au plus près du terrain et enfin, essayer de dynamiser que chacun s'empare de cette problématique sur ces territoires, que tout le monde soit acteur. Et en fait, c'est des questionnements incessants au sein de la coordination. La coordination, c'est quoi? C'est un petit groupe de têtes de réseau, de représentants, de représentants, ou c'est tout le monde? L'idée, c'est que ça soit quand même tout le monde. On en arrive là. Et cette définition, cette notion de définition, elle va même jusqu'à la définition des lieux indépendants et intermédiaires. C'est une première question qu'on a eue dès le départ, mais est-ce qu'on est d'accord sur cette définition-là? On se rend compte que non. C'est une question qu'on a encore maintenant, qu'on essaie de redéfinir. Comment trouver la meilleure définition de nos lieux pour exprimer la diversité à la fois et la singularité de chaque lieu, de chaque territoire?
Est-ce que je reviens? Oui, je m'arrête là.
Ouais, je pense que c'est bien maintenant. Voilà, je pense que vous avez fait un peu le tour de la dynamique et de où est-ce qu'on en est maintenant. On va peut-être présenter quelques... Enfin, on va passer la parole peut-être pour découvrir quelques lieux. Alors, ils ont été choisis pas au hasard, mais il y en a certains d'entre vous qu'on a vu aussi. Mais pour donner un peu des exemples de singularité, Pierre Gosselin du Zoonotopie va nous présenter 15 minutes le lieu, le fonctionnement, l'histoire, comment ça se passe. Hein.
15 minutes, hein, c'est chrono. moi, pour présenter l'usine Autopie, je me suis dit que le mieux, c'était de faire un petit peu une chronologie de comment, enfin, d'où on vient et faire année par année un peu comment ça s'est passé, enfin, de façon assez sommaire, mais voilà, pour que vous sachiez un petit peu d'où on vient et qui on est. Donc, en fait, l'usine Autopie, c'est donc à côté de Villemur, à côté de Toulouse, à Villemur-sur-Tarn, 45 km. C'est un lieu qui est un lieu de résidence, qui est un lieu consacré à la création de spectacles. Avant tout, c'est ce qu'on a voulu hein, dès le point de départ, que ce ne soit pas un lieu de diffusion, mais vraiment un outil de travail adapté à la marionnette, avec des ateliers, un plateau. Voilà, c'est ce que c'est aujourd'hui. Le projet est né. Bon, à l'origine, il y avait deux compagnies créées en 90. La compagnie Magma Théâtre, qui était dirigée par Isabelle, et ma compagnie, le Bruiticourt, qui sont nés au sein de l'équipe Marionettissimo à l'époque, puisqu'on était tous dans un même lieu avec une autre compagnie qui s'appelle le Clan des Songes. Voilà, on partageait un même lieu, on partageait des ateliers, on partageait un festival et on partageait une salle de répète. Voilà, c'est un petit peu là qu'est née cette envie de, enfin, ce plaisir plutôt du partage avec et de l'émulation qui peut y avoir effectivement dans un lieu comme ça de regroupement. En 98, l'équipe Marionettissimo se disloque un peu, on va chacun un peu de notre côté, avec l'équipe, avec le Clan des Songes. Marionettissimo reste un festival, le bruit qui court s'éloigne un peu, Magma Théâtre aussi. Voilà, et en 98, on s'installe avec Isabelle, donc à Villemur-sur-Tarn, qui est donc petite commune de 45, enfin, à 45 km de Toulouse, où on commence à proposer nos spectacles à la population, des ateliers, des échanges, des manifestations, des événements, pour simplement rencontrer la population. Voilà, à ce moment-là, la mairie nous donne une subvention de 150 €. Et puis voilà, on commence à faire des choses. C'est le démarrage. L'encouragement. Voilà. Donc tout ça jusqu'en 2001. Les échanges donc de présentation de spectacles, enfin événements, ateliers, nous offre la possibilité d'utiliser les salles communales, notamment pour nos créations de spectacles. Et à chaque fois, création, qui dit création de spectacle, dit montage, démontage, charger, décharger, les lotos le soir, enfin, gros... faire le noir, enfin, c'était vraiment un gros boulot, fatigue, beaucoup de fatigue. Arrive 2001, et 2001, on décide de fusionner les deux compagnies, déjà, pour essayer de simplifier au niveau administratif. Et puis, on fait un projet commun, tourné à ce moment-là autour de la petite enfance, et on utilise les locaux, donc, comme je disais, avec des gros bras, enfin voilà, avec pas mal de fatigue à ce moment-là. Et donc, jusqu'en 2004 plutôt, où on a l'opportunité d'acheter une usine qui va se libérer, ou qui nous est proposé, dont le vendeur se trouve être le conseiller général de canton, qui nous propose de nous la vendre en nous attendant pour qu'on puisse obtenir un crédit, parce qu'on était, nous, intermittents du spectacle et que ça allait être difficile. Voilà, donc il nous a attendu pendant un an pour qu'on puisse avoir le financement. Et à ce moment-là, on a travaillé, on a fait un DLA, je ne sais pas si vous connaissez le dispositif local d'accompagnement, pour... dans la perspective de mutualiser le lieu avec d'autres compagnies et donner une identité au lieu sur le territoire. Donc voilà, c'était un petit peu ça l'objectif. Donc créer le projet, l'usine Autopie, et aussi faire essayer de voir comment il peut se tourner vers les publics. À ce moment-là, on a fait un projet notamment de mise en conformité, de changement de destination du lieu, parce que enfin, c'est un peu technique, mais c'est un bâtiment industriel, il doit devenir salle de spectacle, donc là ça passe par des permis de construire, ça passe par des trucs un peu complexes. Donc on a fait ce DLA, et en 2005, donc l'achat de l'usine, on arrive à obtenir les crédits, on achète l'usine, on dépose le projet de l'usine Autopie à nos instances pour essayer d'obtenir les financements. Et voilà, en 2006, on entre dans l'usine, on apprend qu'on n'aura rien, parce que on l'a acheté personnellement, on a acheté l'usine personnellement, parce qu'il y a des vis, des trucs qui leur vont pas trop bien au niveau de... questions de permis de construire, des choses comme ça, voilà, donc... Donc, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas grave, on va quand même mutualiser le lieu, et on va quand même commencer à accueillir des compagnies en résidence. Voilà, donc début 2007, on est rentré fin 2006, dès le début 2007, on commence à accueillir les premières résidences. Et donc là, c'est une année importante, quoi, 2007.
Tu voulais dire que l'usine Autopie est créée en tant qu'association, et le bruit qui court à ce moment-là... S'arrête,
voilà. Donc nous, on n'avait plus de temps pour créer nos propres spectacles. C'est quand même un fait important. Effectivement, le projet du lieu a un petit peu englouti la compagnie, parce qu'effectivement, ça demande beaucoup de temps de travail, de préparation. Et que c'est un collectif restreint. C'est pas un collectif avec beaucoup de monde. Après, je sais qu'il y a des projets collectifs avec plusieurs compagnies qui arrivent à créer des lieux comme ça, mais il y a un partage de compétences, d'énergie, et nous on était que deux à ce moment-là. Donc en 2007, on rentre dans le bâtiment, on organise les premières résidences qui sont des compagnies. Enfin, ce que j'oublie de dire, c'est en 2004, on a créé un annuaire qui s'appelait Annu Marionnette, qui était l'annuaire de toutes les initiatives, compagnies de Midi-Pyrénées. Et c'était dans l'objectif vraiment d'avoir un lieu central qui puisse un peu... que le public puisse avoir
un lieu ressource,
voilà. Donc ça nous a mis en contact, enfin c'est important, mais ça nous a mis en contact avec beaucoup de compagnies à ce moment-là. Bon, il y avait plusieurs expériences avec les compagnies régionales, mais ce qui fait que dès 2007, ça démarre à fond la caisse avec un calendrier, un planning de résidence quand même assez complet, quoi, assez important. À ce moment-là, on renoue avec Marionnettissimo et on décide d'être lieu partenaire de Marionnettissimo. Notre mairie passe de 150, enfin a été passée entre-temps, non, passe de 150 à 10 000. Donc tout à coup, un changement
par des intermédiaires.
Mais bon, enfin 8 000.
Pour acheter des spectacles, ouais, mais... une aide de fonctionnement, et qui voilà. S'est transformée après en aide au fonctionnement. Ça, c'était une conquête.
Voilà, pour être lieu partenaire de Marionnettissimo et faire de la programmation, puisque ce qui intéresse la ville, c'est surtout l'animation locale et pas les résidences. Donc c'est sûr que ils n'ont pas pointé les 10 000 euros sur les résidences, ils les ont pointés sur la présentation, et c'est à ce moment-là, Marionnettissimo faisait vitrine un peu, et c'était bien pour eux. Voilà. Mais quand même, chose importante, à ce moment-là, il y a... une vente aux enchères d'un fonds de marionnettes qui avait servi de musée, enfin qui avait servi pour un petit musée qui avait essayé de se créer. Et on dit, tiens, ça serait bien, puisqu'il va y avoir les résidences, qu'autour des résidences, on présente un peu au public et notamment aux enfants qu'est-ce que c'est qu'une marionnette dans le monde. Et la mairie dit banco, allez, on vous fait un chèque, vous allez faire des enchères et acheter des marionnettes pour nous. Pour faire ce petit musée de la marionnette, voilà. Donc, truc important, à ce moment-là, effectivement, on a fait l'acquisition de 80 marionnettes, bon, il n'y en a pas eu beaucoup, énorme, mais 80 marionnettes qui étaient là pour présenter l'histoire de la marionnette et dans le monde, quoi. Voilà. Et faire du lien avec la marionnette d'aujourd'hui et les résidences. Voilà, je vais vite, hein. 2010-2013, alors j'ai un peu sauté là, 2010-2013, on organise un festival qui s'appelle Festival Théâtre Insolite en lien avec les compagnies qui viennent en résidence. On se dit c'est bien dommage, on ne peut pas accueillir le public, donc les compagnies viennent mais le public il n'en sait rien. Donc on va demander aux compagnies que, en l'échange du temps de résidence, qu'elles reviennent présenter leur spectacle en fin d'année lors d'un temps fort qu'on organise à ce moment-là dans les salles communales. Donc c'est ce qu'on a fait 2010 à 2013, et puis pour donner un peu de piquant, on organise ça plutôt justement pas dans les salles communales, enfin un petit peu dans des lieux un peu insolites, quoi, justement pour essayer d'amener la création... ailleurs, et puis que nous on s'y retrouve aussi artistiquement. Donc ça, voilà, 2010 à 2013 ce festival, le dernier a eu lieu dans une friche industrielle qui est à Villemur. Entre-temps, 2011-2012, on apprend la fermeture d'un musée de la marionnette en Aveyron, à Coupiac. Et parce que c'était un petit musée, une collection privée, mais quand même de 500 marionnettes du monde, dont des pièces vraiment exceptionnelles. Et le collectionneur nous appelle, nous dit, on était en lien parce qu'il y avait Annu Marionnette, on sait que vous avez une collection de marionnettes, vous vous intéressez donc aux marionnettes dans le monde, moi je vais fermer, si ça vous intéresse, je vous le mets en gestion. Et donc pendant deux saisons, parce qu'on faisait ça l'été, on s'occupait de ce musée de la marionnette. On a à ce moment-là ouvert une petite, un espace pour exposition temporaire en lien avec des compagnies. On a fait un théâtre de poche. Et puis on a essayé d'animer un peu le musée pour qu'il soit le plus vivant possible, à organiser des visites animées. Voilà. Donc ça, c'était 2011-2012. Arrive 2013, visite de la... Enfin, on fait une... on n'en peut plus. On est vidé. Et on dit, voilà, c'est on ne peut plus, faut arrêter. Parce que là, on est bénévoles tous les deux hein, sur ce projet-là. À ce moment-là, on est vraiment à un stade où c'est très compliqué parce que le projet, il nous bouffe beaucoup. On est bénévoles, mais intermittents, à travailler pour d'autres. Parce qu'on n'a plus notre compagnie, donc on travaille... moi en construction de scénographie, marionnette, Isabelle en interprète, mise en scène. Et à ce moment-là, on décide, on tente de passer une annonce pour un emploi, pour un emploi de chargé de production, pour essayer de trouver des financements afin de continuer le projet. Et on rencontre donc une personne... avec lequel, enfin, qui est vraiment très intéressé par le projet, qui kiffe à mort sur le projet, et qui dit moi j'ai envie de vous aider, j'ai envie de le faire, bon, ben ok, en intermittence, il faut aller plus vite. Ouais. Ok, donc à ce moment-là, on réalise un diagnostic de nos 6 ans, et avec ce diagnostic, on va voir la DRAC. Qui décide de nous amener un soutien à la structuration. Et à partir de là, effectivement, ben, on a pu embaucher donc Myriam, qui est chargée d'action culturelle et de production pour nous aujourd'hui. Et voilà, alors il y a eu plusieurs changements de mairie. 2014, on lance des appels à projets. On a eu une vingtaine de projets cette année. Ben plus pour les résidences. Et maintenant, avec les compagnies qui viennent en résidence, on organise des actions culturelles en lien avec les écoles, maisons de retraite. Enfin, on travaille un peu plus sur le projet d'implantation sur le territoire et à essayer de faire exister le lieu un peu plus avec les gens sur place. Quoi.
Ok.
Juste, on a quand même une chose importante. Ouais. 2014, donc l'année dernière, on a ouvert officiellement le lieu au public.
Voilà, ça c'est un truc important.
Une petite jauge de 49 places.
49 places, mais ça y est, on... avec un soutien mairie, avec pour le coup, avec les institutions qui sont revenues. Voilà.
Ben, merci Pierre et Isabelle. En fait, le bilan d'auto-évaluation, vous me l'avez transmis aussi, c'est un document, un gros travail, et je trouve que c'est très intéressant. Parce que c'est un outil qui peut être destiné aussi à... Et le fait que vous êtes emparé de cette problématique-là et que vous avez produit ce travail écrit, de réflexion et d'analyse et de bilan, c'est quelque chose qu'on devrait partager aussi. Donc, si vous voulez le dire, je vous adresse à Pierre.
Voilà.
On va rester en France, on va changer de région. On va aller
un peu plus loin.
Avec Greta et de là.
Oui. Moi, je suis donc Greta Brugman, directrice artistique de la compagnie Arteta à Cannes. Donc, je viens de très loin. Et merci de m'avoir invité ici. Donc, notre compagnie existe depuis longtemps, notre lieu existe depuis longtemps, parce que je suis venue ici en 81 pour la première formation à l'Institut. Et suite à cette formation, nous avons créé donc notre compagnie dans le sud de la France avec une personne qui était originaire de la Côte d'Azur et qui a dit qu'il y a beaucoup à faire dans ce département, ce qui est vrai. Et je vais être très brève, hein. je vais parler de départ et après de la situation. Donc, nous avons d'abord cherché pendant 3 mois un lien avec une structure. Nous, avec notre petit projet de compagnie des marionnettes. Et en demandant donc un lieu pour travailler. Donc, le premier lieu que nous avons visité, c'est Mougin, juste à côté de Cannes. Et c'était donc, on a commencé au mois de juin, avec notre combi Volkswagen, les marionnettes dedans, spectacle de rue, spectacle de salle un peu. C'était presque 2 ans après la formation, un an et demi après la formation. Et ils ont dit, donc ils étaient intéressés à Mougin, c'est un centre éducatif et culturel géré par 3 communes, collège, piscine et maison pour tous. Ils étaient intéressés, ils ont dit, revenez après l'été, on va voir, on discute. Et après, on a suivi notre route entre Marseille, Menton, l'arrière-pays, à chaque fois, donc en cherchant, en rencontrant des responsables des villes, des théâtres, et pour parler, pour présenter. Donc il y a 3 possibilités. Hein? Et à la fin de l'été, on est revenu à Cannes, à Mougins. Et là, ils ont dit, on a une petite maison de jardinier, parce que c'est un bâtiment assez neuf, entouré de citronniers, d'arbres, avec une petite terrasse. Vous pouvez venir voir si ça vous intéresse. Vous pouvez commencer là. Voilà. Et cet établissement était géré. Ben, le secrétaire général, c'était René Corbier, qui est là, qui était en train d'organiser un festival de marionnettes, le FINCA, qui a lieu plusieurs éditions. Et nous sommes restés à peu près 6 ans dans ce lieu. Et ensuite, nous sommes partis à Cannes, dans un lieu plus grand, un atelier plus grand, que nous occupons toujours. C'est une ancienne usine de chaussures. Et le centre de notre action, c'est la création de spectacles, production, diffusion, etc. Et aussi un lieu de formation depuis 15 ans. Notre lieu a toujours été assez ouvert, en chant, qui nous ont aidés, conseillés, bon, plusieurs personnes sont venues, connaissent de quoi je parle. Et nous sommes donc soutenus maintenant par le ministère, la région, le département et la ville nous loge. Nous avons un petit studio de répétition, d'augmentation, grand atelier, et nous avons 4 permanences. Voilà. Bon. Ah oui, je veux dire quelque chose sur Mougins, parce qu'il y a en ce moment un projet qui va probablement se réaliser, qui va se réaliser, de salle de spectacle dédiée pour 30% au théâtre de marionnettes, une nouvelle salle. Il y a une école une grande école de danse, une nouvelle école qui est construite avec un conservatoire et le maire de Mougins a décidé de construire une salle de spectacle avec une attention particulière au théâtre de marionnettes, théâtre visuel. C'est un peu un raccourci.
Voilà. Non,
si vous avez des questions précises à ma cousine, c'est tout ce que.
Voilà, ben, merci Greta. Donc voilà, c'était aussi en fait, on voit aussi deux fonctionnements différents. Hein, donc un lieu qui est dédié vraiment à l'accueil en résidence, et puis un lieu qui est à la base vraiment dédié au travail, à la création d'une compagnie, mais qui n'empêche pas, et puis dédié à la formation aussi, à la transmission.
Transmission.
Accompagnement aussi, voilà. Donc c'est 2 types de fonctionnement qui existent, qui sont assez représentatifs de ce qui se passe en France dans les compagnies. En tout cas, voilà, on pourra revenir après si vous avez des questions directement sur Greta, etc., ou sur Pierre. On va maintenant traverser l'océan. On va aller voir ce qui se passe ailleurs. Justement, c'est un peu la question avec Olivier Ducas, la compagnie de Pierre Espèce et votre lieu.
Bonjour. Donc, oui, je dirige la compagnie de théâtre de la Pierre Espèce, qui est une compagnie de création. et qui est une des compagnies fondatrices du théâtre aux Écuries, donc le lieu dont on parle aujourd'hui. Je commence par vous parler du lieu, puis après je fais un petit retour en arrière parce que c'est incompréhensible. Si vous n'avez pas des toutes petites bases de comment ça fonctionne le théâtre au Québec, c'est des structures différentes de ce qu'il y a en France, et c'est évidemment une histoire très différente. Donc le lieu comme tel, c'est très jeune. Dans sa forme actuelle, les Écuries, ça a 4 ans. Donc c'est des rénovations d'un ancien, d'un bâtiment qui était le lieu de création d'une compagnie qui s'appelle le Théâtre Les Deux Mondes, une compagnie qui a roulé sa bosse au Québec, qui a beaucoup tourné, qui a travaillé beaucoup en jeune public et vers la fin en public adulte aussi. Donc c'est une compagnie qui est née dans les années 70, comme plusieurs compagnies chez nous et qui sont devenues des grands tourneurs. Il y avait un lieu de création à Montréal et c'est eux qui ont accueilli le projet des Écuries. Quel est ce projet? Donc les Écuries, c'est un regroupement de compagnies de création. C'était tous des créateurs de fin vingtaine, début trentaine, qui se trouvent dans un paysage à Montréal en 2005, où il est à peu près impossible de trouver un lieu pour diffuser des spectacles. Il y a une saturation des théâtres. Donc, c'est des théâtres à saison chez nous, où le théâtre est dirigé par une compagnie de production, donc qui produit ses propres spectacles dans son théâtre. C'est le modèle, en fait, qui a été, au fur et à mesure du temps, qui a été créé chez nous pour la diffusion. Donc, chaque théâtre a son mandat très précis. Un théâtre qui s'occupe d'auteurs québécois. Un théâtre qui s'occupe de répertoires classiques. Un théâtre... Donc, les théâtres sont financés pour des mandats. Ils créent donc quelque chose qui est une ligne artistique très précise. La plupart des théâtres n'ont qu'une salle de spectacle. Certains en ont deux, donc une grande salle où ils vont faire leur programmation de leur spectacle. Et une petite salle qu'ils vont louer, mais sur laquelle dont ils ne se préoccupent pas des communications. Il y a un service de billetterie en général, mais il faut tout louer en fait. Donc les jeunes compagnies émergentes, vont devoir louer. Évidemment, ils n'ont pas de moyens, donc la plupart ne peuvent juste pas du tout louer. Puis ceux qui ont du financement à projet, parce qu'on a des concours, c'est les conseils des arts qui donnent des subventions à projet. Donc déjà, on passe par un concours. Quand on a la subvention, on a une chance de pouvoir louer un lieu, mais ça prend une grande partie de notre subvention. Bref, c'est à peu près impossible de se développer comme compagnie en 2005, au moment où je vous parle. Mais on est plusieurs compagnies très actives et il y a comme des compagnies qui créent, les artistes se créent des compagnies parce que si on ne crée pas dans la ligne artistique d'un théâtre, on n'a même pas de chance de pouvoir entrer au théâtre. Donc si ce que je fais, c'est très intéressant, mais ce n'est pas un texte d'auteur québécois, je ne pourrais pas rentrer au théâtre d'aujourd'hui parce que c'est son mandat. Même si je pouvais, louer la salle. Donc, on a un véritable manque à ce moment-là d'espace pour la diffusion. Et donc, les compagnies se mettent ensemble. On est dans la mutualisation à fond. L'idée, donc, de dire la seule façon maintenant de pouvoir faire quelque chose de nouveau, c'est de mettre en commun des ressources parce qu'il n'y aura pas plus de ressources. Il n'y a pas d'augmentation de l'argent des conseils des arts. Mais les compagnies qui sont déjà financées augmentent tranquillement parce que tout augmente. Donc, il ne reste plus rien en bas. Donc, émerger est à peu près impossible. Celles qui ont commencé à le faire un peu avant nous sont mortes, en fait. Ils ont commencé, ils ont vivoté pendant 8-10 ans, puis ont fait « ça suffit, j'arrête ». Donc, il y a plein de compagnies qui ont fermé. On se retrouve avec des compagnies âgées qui ont un bon financement, qui ont une bonne situation, soit parce qu'ils ont des réseaux de diffusion, donc ils tournent beaucoup, soit parce qu'ils ont des théâtres à eux. Et donc, il y a une espèce de fossé là, qui se crée. Mais il y a beaucoup de monde en bas qui pousse. Et on est moins dans cette pensée de « je fais ma propre affaire ». On est, j'imagine, une génération qui dit « mettons en commun ». Mettons-nous en commun. On ne peut pas faire de promotion de nos spectacles. Donc, même quand on joue, personne ne vient parce qu'ils ne savent même pas qu'on joue. Il y a une offre énorme à Montréal. Il faut savoir que c'est une ville extrêmement active sur le plan théâtral. Et donc, on met en commun nos faibles ressources. On se met ensemble, en fait, pour faire de la promotion collective. On invente un outil de promotion collective, du théâtre émergent, etc. Et donc, tout ça fonctionne très bien. Et là, ces compagnies-là qui font les Écuries, en fait, arrivent avec un projet en 2005 qui est, il faut ouvrir un nouveau lieu. Un lieu qui soit pas, qui n'est pas une ligne artistique, mais qui soit ouvert à une constellation de propositions. Donc, le lieu est officiellement un lieu ouvert à la relève et aux formes alternatives. Ça semble un peu fourre-tout comme façon de le nommer, mais l'idée, c'est beaucoup qu'il n'y a pas de lieu qui s'intéresse d'abord et avant tout à la forme. Et donc, dès qu'on fait marionnette, dès qu'on fait du théâtre d'image, dès qu'on fait du théâtre acrobatique, on ne sait pas trop où aller. Et on n'est pas nécessairement accueillis non plus. Donc, le lieu, le projet, ça, tout va très vite. En 2005, on émet le projet. En 2007, c'est les états généraux, les deuxièmes états généraux du théâtre au Québec, parce que il y a plusieurs problèmes, en fait, au niveau de la diffusion, du développement public. Bref, états généraux importants. Et le milieu est unanimement derrière le projet. Il faut absolument créer ce lieu-là. Il y a un véritable besoin. Et l'idée d'un lieu de diffusion, et c'est beaucoup plus large que ça, c'est aussi de dire avoir un lieu où on peut faire de la résidence, où on peut offrir des résidences, parce que ça aussi, ça n'existe à peu près pas au Québec. Une résidence chez nous, c'est « je te prête ma salle ». Mais là, il faut quand même payer tout le monde et tout. Fait que finalement, les compagnies ne font pas beaucoup de résidences. Et vous savez que si je passe mon temps à travailler dans un sous-sol d'église, ben ça va, mais au bout de 8-10 ans, je fais toujours du théâtre de sous-sol d'église. Comment je peux développer un langage si je n'ai pas accès à des moyens financiers, des moyens organisationnels, matériels, décents, etc. Donc, le théâtre, en 2005 et 2007, il y a une croissance énorme dans l'avancée du projet. Et en 2009, c'est là où les deux mondes font « Nous, on est une compagnie vieillissante, on a moins d'activités, on a un lieu formidable. » Il y avait une salle de spectacle, une salle de création, en fait, très bien conçue parce qu'il y a un très, très gros plateau pour travailler. Puisque eux, c'était des tourneurs qui faisaient des salles de 800 000 places. Donc, un énorme plateau avec une toute petite salle de 120, 130 places pour tester leur proposition avant de partir en tournée. Et donc, la salle de théâtre existe déjà. Mais entre 2005 et 2011, se passent bien des choses dans le milieu théâtral québécois. Il y a une explosion de propositions nouvelles, d'auteurs nouveaux. Bref, ça pousse très fort. Et le projet tel qu'il est émis au départ, déjà, si on crée ce lieu-là, il y aurait 6 compagnies résidentes et on voudrait faire de l'accueil. Et il n'y a pas de place. Parce que les deux mondes qui sont dans leur lieu, il y a nos 5 compagnies, nos 6 compagnies, il n'y aura plus de place pour accueillir. Donc, le projet déjà vit un agrandissement au niveau des plans. Et parce qu'il y a une crise financière, c'est super, parce que là, on veut donner de l'argent à des bâtiments. Il faut stimuler la construction. Donc, tout ça fait qu'il y a une accélération du projet. Puis en 2011, le théâtre Les Deux Mondes, qui est propriétaire du lieu, reçoit l'argent. C'est la façon, en fait, la voie d'accélération. C'est eux qui reçoivent l'argent pour rénover leur lieu, pour accueillir les écuries. Et donc, depuis 2011, on est dans le nouveau bâtiment qui compte maintenant 2 salles de spectacle. Donc, la salle à l'italienne à 160 places, un cube noir, un studio de création impeccable, 90 places qu'on peut mettre dans tous les sens, on fait ce qu'on veut là-dedans. 3 salles de répétition de différentes dimensions, dont une bien équipée techniquement avec grid, éclairage et tout. Et un super beau café à l'entrée, avec bar et tout. Donc, au sous-sol, un atelier de fabrication, il y a l'entreposage pour accompagner les deux mondes. Eux, l'idée, c'était qu'ils continuent à pouvoir fonctionner dans leur lieu comme sans perdre, en fait, la jouissance qu'il y avait avant, mais en même temps, en mettant en commun des espaces. Donc, maintenant, les écuries, on gère, en fait, le lieu de diffusion. On est à notre 4e saison, donc, dans le lieu. La 6e saison, là, on a fait 2 saisons avant ça en squat, si on veut, dans les locaux des deux mondes, mais bon, je passe là-dessus. Depuis 2011, donc, on a fait 4 saisons, c'est la 5e. Et déjà, le projet change. On est à la phase 2 des écuries. Vous voyez, tout va très vite. Parce que depuis ce temps-là, il se passe plein de choses aussi dans les théâtres. Ça devient vraiment bien d'avoir de la relève dans notre théâtre maintenant. C'est la vague, c'est le feu a pris. Et donc, toutes les secondes salles sont devenues des salles que les théâtres mettent de l'avant. J'ai de la relève dans la 2e salle, c'est super. Et on met ça de l'avant, on fait la promo là-dessus. Ils sont rendus dans les saisons, dans les abonnements. Et donc, le besoin de diffusion n'est pas réglé, mais est beaucoup moins grand que quand on a fondé le lieu. Ce qui nous permet de faire ce qu'on voulait prioritairement faire, de la résidence, de l'incubation. Maintenant, l'enjeu maintenant, c'est de ne pas produire le plus vite possible, le plus de spectacles possible, parce qu'il y a une roue aussi qui part, et là, on devient dans un mode production. Les compagnies font vite, avec peu, et éventuellement, bien, il y a quelque chose qui est un peu faible sur le plan de la recherche, des fois. Et donc, c'est là qu'on est utile. On travaille beaucoup plus sur l'incubation puis l'offre de service. Une compagnie qui arrive, qui a 3 ans, n'a pas d'administrateur, connaît rien à la diffusion, oublier la tournée, c'est très, très compliqué de faire la tournée, surtout au Québec, c'est très compliqué, très, très difficile. Les compagnies ne sortent pas beaucoup de l'aide à la, aux communications. Bref, il y a des gens qui arrivent chez nous qui, ont, qui commencent à créer, qui ont un potentiel énorme, mais qui ont besoin de, d'un coup de main. Et donc, on travaille maintenant, nous qui ne sommes plus des compagnies de la relève, ma compagnie a 15 ans, les autres compagnies ont un peu la même âge, on a l'avantage d'être tous très différents. On n'a pas du tout la même pratique. On n'a pas du tout le même réseau, les mêmes familles, si on veut. J'ai une compagnie de théâtre acrobatique. Il y a un festival de textes, donc un festival du jamais lu, des textes d'auteurs qui sont lus, un festival de lecture. Nous, on fait du théâtre d'objets, du théâtre de marionnettes, du théâtre d'images. Olivier Chouanière est un des auteurs les plus importants maintenant. On faisait ça au Canada. Et donc, on a chacun nos réseaux. Et grâce à ça, on fait donc une direction artistique en collectif. Nous sommes tous les directeurs artistiques des compagnies résidentes forment la direction artistique du théâtre aux écuries. Donc, on sélectionne les projets ensemble. Et évidemment, on a une ouverture particulière avec les formes qui sont proches des nôtres. C'est-à-dire que nous, c'est sûr qu'on va avoir un radar sur les compagnies qui sont en marionnettes, qui sont en objet. Et donc, il y a un partenariat aussi qui s'est établi, je vois super vite, là, avec Castelier. Donc, qui est chez nous, Castelier, c'est qui fait les trois jours de Castelier, notamment le festival qui est en partenariat avec Charleville, et qui présente un spectacle hors festival à chaque automne, et il le présente aux écuries. Et donc, il commence à se développer aussi, le public maintenant sait que s'il cherche ce genre de travail, il va le trouver au Festival Castelier, mais il va le trouver aussi chez nous. Évidemment, la PRFS, on est très actifs là-bas aussi, donc il y a une habitude qui s'est créée. Bref, je pense que je fais le tour de ce qu'il faut que vous sachiez. Et donc, je vais juste terminer en faisant une petite ouverture. On est un peu un mouton noir. Le théâtre est décentré géographiquement à Montréal. On est un peu au nord-est, dans un quartier résidentiel, sur une rue résidentielle. Donc, on est vraiment volontairement, je dirais, décentré. Ça coûte bien moins cher d'être là-bas que si on était au centre-ville. Et de toute façon, on n'est pas un théâtre où les gens vont entrer par hasard. On sait qu'on s'en va là pour voir des gens qui font de la recherche. Et donc, les spectateurs suivent plutôt bien, je vous dirais, pour un théâtre si jeune. Notre intérêt maintenant, c'est de voir quel pont on peut construire avec des partenaires qui partagent une certaine pensée. Parce que c'est difficile de trouver des partenaires à Montréal, où il n'y a pas beaucoup d'intérêt à le faire, parce qu'on est très différents et on est très... extraterrestre. Dans notre mode de fonctionnement, il y a plein de gens qui font « Ah, collectif, ça ne marchera jamais, machin. » Mais ma foi, ça marche très bien. Et donc, on commence à lancer des perches vers des gens qui ont la même pensée à Calgary, super loin de chez nous, à peu près aussi loin dans l'ouest au Canada que vous êtes ici. C'est pas la même distance en avion. On a la chance de tourner beaucoup avec la pire espèce. Donc, c'est sûr que ça fait des années que je vois des modèles différents en Europe de ce qu'on a là-bas. Fait que j'essaie de ramener aussi de l'autre côté en disant, ben oui, on peut faire comme ça, on peut offrir ce genre de résidence de cette façon-là. Il y a d'autres modèles. Donc, je suis content parce que déjà, c'est un accélérateur de rencontres, c'est parfait. Voilà, j'arrive.
Juste une question, est-ce que vous pouvez préciser comment fonctionner au niveau économique?
Ah, ok, très rapidement. Chez nous, il y a le ministère de la Culture qui donne un budget au Conseil des arts. Le Conseil des arts est indépendant des politiciens, ce qui est formidable. Les jurys sont des jurys de pairs, qui sont donc pris à même le milieu des administrateurs, des auteurs, des acteurs, des acteurs de compagnie, etc., qui vont faire à chaque année donc les jurys pour octroyer de l'argent aux projets. Il y a des compagnies donc qui vont faire des demandes à chaque année pour leur projet de l'année. Et il y a des compagnies qui sont au fonctionnement, qu'on appelle, ce qui va ressembler un peu au conventionnement, j'imagine. Donc, où on a de l'argent pour les quatre prochaines années et où on a donc un bilan à faire de ce qu'on a fait, etc. Et ça peut être reconduit avec plus ou moins, mais c'est toujours du concours. On a un gros problème présentement parce que ça n'augmente pas. L'argent n'augmente pas dans nos conseils des arts. Nous sommes à droite, nous aussi, politiquement. Et donc, le conseil des arts en est n'augmente pas, donc ça ne marche pas non plus en dessous. Et donc, c'est un véritable problème, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Fait qu'on a toutes sortes d'enjeux politiques sur est-ce qu'on continue à financer des compagnies qui ont ralenti, mais qui sont des locomotives de ce qui se fait au Québec. Bref, on est dans les débats.
Mais pour le lieu, je veux dire, est-ce que par exemple la diffusion des compagnies permet d'alimenter le fonctionnement du lieu qui est par le Conseil des Arts, qui a du mécénat, enfin, comment vous...
Alors le lieu, majoritairement, l'argent vient du Conseil des Arts et Lettres du Québec et de Patrimoine Canada qui, lui, n'est pas un Conseil des Arts, mais est un ministère. Donc, autre histoire. Et il y a un peu d'argent du privé. Il y en a eu beaucoup quand pour les rénovations. Il y a eu beaucoup d'apports de donateurs privés. Il y en a beaucoup moins maintenant. Le théâtre aux écuries comment j'expliquerais ça? Parmi tous les théâtres à Montréal, ce n'est certes pas celui qui va attirer le plus les grandes entreprises. Disons-le comme ça. Plein de raisons. C'est des gens jeunes, inconnus, qui font des choses bizarres. Donc, c'est pas très attirant. On y travaille, mais on se fait pas d'illusions sur la... Il ne s'agit pas de se faire croire qu'on va aller chercher le pactole. Donc, c'est essentiellement comme ça que le lieu est financé. Évidemment, tout ce qui se fait est déficitaire, au sens où les spectacles ne vont pas rapporter d'argent, puisque c'est des petites jauges, vous voyez, 160 places. Bon, il n'y a rien à faire. Au niveau de... Donc, c'est vraiment... C'est un service, on offre des services à la communauté, c'est vraiment ça. Au niveau du financement, donc, et même là, ça a augmenté beaucoup en peu de temps, parce qu'évidemment, c'est un des plus gros théâtres à Montréal, en termes d'espace, de diffusion puis de création. Donc, on a commencé avec 3 sous et quart, ce qui était absurde. Et on nous parle de « oui, mais vous savez, historiquement, vous êtes jeune. On est jeune, mais on est gros, ça n'a rien à voir. Vous avez appuyé le projet, maintenant, eh bien, il faut suivre. » Alors, ça a augmenté quand même assez rapidement, sauf que on arrive à un point de saturation où on ne continuera pas la courbe. Les conseils des arts ne vont pas tout d'un coup continuer d'augmenter à ce rythme-là. Donc, éventuellement, une des raisons, entre autres, pourquoi on veut réduire au niveau de la diffusion, on ne veut plus accueillir des spectacles comme on le faisait avant. Ce qu'on veut, c'est avoir des compagnies qu'on appelle des incubées qui vont rentrer chez nous pour 2 ans. Qui vont s'installer, qui vont créer chez nous, qui vont faire des ateliers, qui vont profiter des services qu'on peut leur offrir, du soutien, du mentorat, que ce soit du mentorat artistique, du mentorat administratif, tout ça, et qui, au terme des 2 ans, donc au terme de ces créations, où ils vont pouvoir rencontrer le public à chaque fois, vont diffuser chez nous. Donc, ceux qui diffuseront chez nous vont être les résidents, nos compagnies, et les incubés. Et non plus un appel à projet où les gens soumettent « Je voudrais jouer l'année prochaine chez vous, j'aimerais profiter de l'espace pour me diffuser. » Aller dans les autres théâtres, nous maintenant, on s'occupe juste de recherche jusqu'à diffusion.
C'est l'idée. Oui, donc c'est vrai qu'on... En fait, juste après, En fait, ce que je trouve très intéressant là, c'est qu'on rejoint finalement une problématique qu'on vit aussi au niveau des lieux en France, et surtout sur la notion, enfin sur deux notions, la notion d'accompagnement, ce que vous appelez incubation, accompagnement, et ce que tu as mentionné tout à l'heure dans un des objectifs qui était aussi important, qui est liée à la notion de temporalité dans la recherche, expérimentation, laboratoire, qui est, à mon avis, une des composantes très importantes des lieux dits intermédiaires et indépendants. Ça, là, de ce côté-là, malgré le fait que les modes de fonctionnement, financement sont un peu différents, etc., mais on retrouve les choses sur lesquelles on se retrouve. Tu voulais être en
dans le cadre de votre sur le lieu, vous avez... Donc, cette recherche est régulièrement par les problèmes de diffusion, donc c'est spectacle et la relève qui est vive. Et j'ai entendu parler l'année dernière d'un voyage dans le Québec financé par les fonds publics de programmateurs français qui étaient invités à venir voir à Québec des créations
québécoises.
Et est-ce que vous avez fait partie de ce projet? Il semble que oui. Et est-ce que c'était dans le cadre de l'activité de votre lieu qui, du coup, offre une diffusion à l'international aux compagnies, au moins aux membres du collectif et peut-être aux incubés? Oui. Est-ce que ça a concerné aussi les compagnies que vous appelez les incubés qui sont cette collègue?
C'est-à-dire que nous, la pire espèce, il existe des façons d'inviter des diffuseurs de l'étranger. On est un pays de 7 millions, une province de 7 millions de personnes. Sur un territoire gigantesque. Donc, il y a Montréal, il y a Québec, puis il y a un très grand territoire. Donc, la diffusion au Québec est à peu près impossible pour une compagnie. Il y a quelques très, très rares compagnies qui tournent beaucoup au Québec. Donc, c'est évidemment qu'on a besoin de faire des échanges. C'est pour ça qu'on peut avoir du financement à la tournée internationale, pour avoir le transport de l'avion et tout. Puis, une fois qu'on arrive ici, par exemple, on va être pris en charge par les diffuseurs d'ici. Donc, c'est un soutien à la diffusion. Et donc, à l'inverse, il y a moyen de faire... d'inviter des délégations, par exemple, de diffuseurs. Les festivals le font toujours, évidemment. Les compagnies peuvent le demander. Ce n'est pas automatique, évidemment. Et donc, il y a un projet qui venait donc de la pire espèce.
C'est ça.
C'était la pire espèce.
Dans le cadre du
non.
Public.
Non, mais il pourrait, ça, le lieu pourrait faire la demande, etc. C'est que les enveloppes, c'est très technique, mais les enveloppes qui sont réservées aux producteurs, les enveloppes qui sont réservées aux diffuseurs, c'est pas les mêmes enveloppes, c'est pas les mêmes enjeux. Bref, tout ça. Sauf qu'on profite du fait que les compagnies, c'est-à-dire que si la pire espèce fait quelque chose aux écuries, ça profite à la pire espèce, ça profite aux écuries.
Oui.
Parce que les gens viennent aux écuries, ils rencontrent les clips, ils rencontrent les gens qui sont là. C'est vraiment ça l'idée.
Ok, ben merci Olivier. Donc là, on va profiter aussi. Greta est venue avec une invitée d'un autre lieu, donc on retraverse l'océan, mais on va plus au sud, avec Patricia qui vient du Sénégal. Donc, tu vas présenter un peu ton expérience.
Je m'appelle Patricia Gomis et je suis comédienne sénégalaise. Voilà. Et merci de m'accueillir parce que je suis presque incrustée. Donc je vais pas parler très longtemps. Je remercie Greta de m'avoir poussée. Vas-y, viens, demain matin.
C'est marqué dans l'invitation, rencontre internationale.
Donc voilà, on est aux rencontres de Charleville Média. Oui, elle a raison, c'est international et c'est une opportunité aussi de rencontrer des gens, de parler de ce qu'on fait, etc. Voilà, donc moi je vais parler un petit peu de... je vais faire un peu l'historique du théâtre au Sénégal d'abord, parce que voilà, nous on est un petit pays, le Sénégal, c'est, je sais pas, il y en a qui connaissent peut-être, donc on est à l'extrême ouest de l'Afrique, et c'est un pays qui fait le nez de l'Afrique. Et on a eu la chance, tout de suite après l'indépendance, d'avoir un président poète... homme de culture qui a construit un grand théâtre national, un conservatoire de musique, de danse et d'art plastique et de théâtre. Et donc on était le premier pays en Afrique noire à avoir c'est vraiment une culture assez portée. Et donc, on avait une compagnie nationale qui tourne partout en Europe, en Amérique et partout. Puis après, donc, le conservatoire a formé des artistes qui ont tourné aussi, mais partout. Puis après, le président est parti et puis, on avait fermé le conservatoire des arts dramatiques pendant une vingtaine d'années, je crois. Et puis on l'a réouvert après pendant 10 ans, puis ça a été fermé. Mais ça ne forme pas beaucoup d'artistes. Alors, donc il faut savoir qu'au Sénégal, il n'y a pas de statut d'artiste comme ici. Les projets artistiques ne sont pas soutenus par le ministère de la Culture, ou en tout cas, ils soutiennent eux-mêmes des initiatives qu'ils font comme des projets, mais qui viennent du ministère même. Donc c'est très difficile. Ce qui fait que les artistes qui ont été formés tout de suite après les indépendances ou même jusqu'aux années 80-90, la plupart, dès qu'ils ont une occasion de tourner en Europe, ils y restent, ce qui fait que beaucoup d'artistes sénégalais sont restés soit en Belgique, en France ou ailleurs, où ils peuvent bien travailler, gagner leur vie, je comprends. Et du coup, ça fait que maintenant le conservatoire est fermé, il n'y a pas de lieu de formation pour le théâtre. Mais moi, j'ai eu la chance de rencontrer une Brésilienne qui est venue avec son mari qui était diplomate, et elle était formée au conservatoire à Paris. Donc dans chaque pays où elle passait, elle donne des ateliers de théâtre. Donc j'ai intégré cet atelier, et puis on a eu la chance de recevoir des intervenants qui venaient de France, donc, dont un clown, un vieux clown français qui s'appelle Michel Parent, qui est venu nous donner un atelier de 15 jours. Et j'ai découvert le clown. Alors, j'ai dit tout de suite à mes camarades, on était 4, j'ai dit, on va monter une compagnie de clowns et on va jouer. Mais bon, avec un mois d'atelier, on ne peut pas être clown, mais on adorait ça. Donc, on a commencé à mettre le nez, à nous maquiller comme les clowns européens. C'était horrible. Et les enfants, ils pleuraient quand on arrivait. C'était vraiment moche. Donc, après, on s'est dit, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, le clown, ça fait rire. Mais pourquoi les gens ont peur? Mais parce que c'était juste un gros nez rouge. Alors, on a dit, bon, on va essayer de chercher dans notre culture. Il faut savoir que ce n'est pas dans la culture africaine, le clown. Mais il y a des personnages africains qui sont proches du bouffon ou, voilà, du fou, du roi, etc. Donc, on a commencé à chercher des maquillages africains qui puissent nous changer un peu la situation. Donc, on a trouvé les Paul Bororo qui font des maquillages pour des cérémonies, soit de mariage ou enfin, des cérémonies, des rituels. Donc, on a trouvé ça super. On a essayé d'adapter à nos clowns. Donc, c'est juste des petits points ici autour des yeux, la bouche noire, comme moi j'aime bien. Et puis, bah, ça ressortait bien les yeux et puis on arrivait à bien faire des mimiques et ça a changé tout. Et on a enlevé le nez rouge et donc voilà, on a monté un spectacle à quatre et on était les premiers clowns de l'Afrique de l'Ouest. Et donc on a tourné dans toute l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, puis c'était super bien. Mais on rentrait toujours au Sénégal parce qu'on a réussi à faire quelque chose qui nous permet de gagner de l'argent. Donc, après, la compagnie s'est disloquée, les gens avaient gagné beaucoup d'argent, certains sont partis. Il y a un qui est parti aux États-Unis, un autre, nous, les deux filles, on était deux filles, deux garçons, deux filles sont mariées, moi je suis mariée. Donc, l'autre a arrêté, et un des garçons, il a arrêté le théâtre, tout simplement. Donc, moi, j'ai continué.
Et
donc, il n'y a pas longtemps, je vais y arriver, mais alors il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvée toute seule et j'ai créé une compagnie, une nouvelle compagnie et une association. Et puis, en 2011, je montais un spectacle et donc je suis allée voir mon metteur en scène qui est toujours Marcia de Castro, celle qui nous a formés, parce que comme elle me connaissait, et le spectacle parlait de ma vie, de mon parcours, et comment une fille devient une femme en Afrique. Donc, elle m'a proposé de travailler avec les marionnettes. Alors, j'ai dit, ah, mais nous, on ne connaît pas de marionnettes au Sénégal. Hein. Il y en a ailleurs en Afrique, mais pas au Sénégal. Donc, elle m'a dit, écoute, il n'y a pas de problème. Je connais Jean-Louis Ekel. On va lui demander s'il veut bien travailler, t'accompagner dans cette création. Et donc, on a rencontré Jean-Louis qui m'a permis d'arriver ici à l'Institut. Et puis, j'ai fait la recherche et j'ai découvert le monde de la marionnette. C'est grand, beaucoup de choses. Et j'ai dit, mais c'est ça que je veux faire aussi, plus le clown. Mais parce que les marionnettes nous permettent de raconter les choses. C'est un médium pour dénoncer sans être attaqué, parce que c'est pas moi qui parle, c'est lui. Et donc j'ai dit, voilà, dans mon spectacle, je raconte l'excision, mariage précoce et beaucoup de choses qui quand même, l'excision dans certains villages, on ne peut pas dire parce que c'est dans la culture et que c'est normal, tu ne peux pas dire que ce n'est pas bon. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais je raconte quelqu'un qui a été excisé. J'ai dit, ça c'est bien, les marionnettes. Donc depuis 2011, mon association a créé un lieu qu'on a acheté dans un village. On s'est dit, on va dans un village parce qu'il faut savoir qu'au Sénégal, en Afrique en général, on ne peut pas faire... pour moi, faire l'art sans être engagé socialement, parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire chez nous, mais beaucoup. Par exemple, la première fois que je suis venue jouer en France, je suis rentrée, ma mère m'a dit, tu es complètement folle, tu viens jusqu'en France et tu reviens au Sénégal. Là-bas, il y a tout et toi, tu rentres. Je dis, justement, je rentre parce que chez moi, il n'y a rien, tout est à faire. Et c'est ça qui est intéressant. Beaucoup de choses sont à faire. Et donc, ma compagnie, on a créé, donc on a acheté un lieu de 1 hectare et demi qui nous a coûté presque 4000 euros, c'est pas beaucoup pour 1,5 hectare, où on a planté des arbres, on a construit un théâtre de 150 places et on veut que ce lieu soit le lieu phare en Afrique de l'Ouest pour la marionnette. Mais sauf que il n'y a pas d'école de marionnette, il n'y a personne qui fait ça au Sénégal. Alors comment faire pour que ce lieu puisse, pour que ce projet puisse exister, et etc.
Dina va organiser une prochaine réunion chez toi.
Ah oui, je veux bien. Voilà, donc on a aussi créé une école maternelle, parce qu'au Sénégal, l'école maternelle, c'est privé. L'école n'est pas obligatoire hein, en Afrique, ça qui est vraiment un crime pour moi contre l'humanité. Parce que l'école ne soit pas obligatoire, il y a beaucoup d'illettrés. Donc on a créé une école maternelle dans une banlieue. Et là, cette année, on va créer une école primaire dans le village parce que ça fait 2 ans qu'on est là. Et on a aussi créé un festival dans le village. Et il faut savoir que quand vous venez faire la marionnette au Sénégal ou faire même du théâtre, c'est des choses que les enfants vont voir pour la première fois de leur vie. Parce que ça n'existe pas. Donc c'est très agréable de faire ça, parce qu'on sait que les gens qui nous regardent, ils vont s'en souvenir toute leur vie. Voilà, donc ce lieu existe. Maintenant je cherche des partenariats, je rencontre des gens pour qui, des gens qui ont envie d'aller faire l'aventure. On peut accueillir, loger, nourrir, et puis faire des formations pour l'Afrique de l'Ouest, des artistes, danseurs, plasticiens ou comédiens qui ont envie de faire l'art de la marionnette pour venir chez nous et voilà, suivre une formation. Et on est un lieu aussi de diffusion. Ça n'existe pas au Sénégal, à part l'Institut français qui est le seul lieu qui diffuse. Il n'y a pas de lieu de diffusion. On est le premier lieu qui veut diffuser du théâtre toute l'année. Mais c'est un gros projet et ça va être très très long, mais je serai contente qu'on soit les premiers à encore faire ça chez nous. Voilà, donc on est ouvert. Ceux qui veulent avoir, savoir ce qu'on fait, je peux prendre leur mail et envoyer notre projet, voilà, pour le festival, pour la formation. Et en fait, notre projet, l'autre, c'est de donner l'accès aux arts, aux enfants du village et des villages autour. Voilà, donc c'est que qu'ils viennent chez nous voir du théâtre, réfléchir à leur avenir, réfléchir à un monde autre, etc. Mais c'est un gros projet.
Voilà. Vous êtes combien, Patrice?
Alors, dans notre association, on a quelqu'un qui est animateur de collectivité éducative, on a un musicien, on a un plasticien, moi qui est artiste, et voilà, qui a porté ce projet. Voilà.
Merci. Moi, je trouve que c'est super de terminer cette présentation par l'exemple de Patricia, surtout sur l'aspect du rôle fondamental, social et politique de la création d'un lieu comme un moteur, lieu de création, de dynamique, de transmission. Et de défrichage aussi, hein, de parler d'expérimentation, d'incubation, ben, il y a aussi ce rôle très important de revenir pour faire quelque chose. C'est plus facile de créer quelque chose là où il y a beaucoup de monde, quoique, et le fait d'aller dans... planter une graine là, quoique, bien sûr, ouais, bon, on discute aussi.
Ça, oui, oui, oui. Mais quand même, des choses, beaucoup de choses ont été faites.
Voilà, beaucoup de choses ont été faites, donc c'est une autre difficulté, on va dire, mais le fait d'essayer de planter une graine là où il n'y a rien, et ça, je trouve que c'est un rôle très important. Et les lieux intermédiaires ont aussi ce rôle-là, et chez nous aussi, oui, quelque part. Et donc là, on se retrouve. Maintenant, on va peut-être laisser la parole à la salle, on a plus de temps. On a plus de temps. 2h45. Non, on l'a commencé un petit peu.
Ah oui, non, mais c'est
pour les. Voilà. Voilà, s'il y en a qui veulent poser des questions, à réagir. Et puis, on devait présenter la charte aussi. Donc, mais.
Elle est
à disposition. Donc, juste, c'est un fruit d'un travail assez long. Elle est sur le site. Enfin,
sur
le
site. Ça,
voilà, elle est consultable.
En fait, on a créé un site de la Coordination nationale des lieux intermédiaires et indépendants où vous trouverez la charte, etc. Et aussi, il y a une cartographie qu'on a mis en place pour que les structures qui se reconnaissent dans cette charte puissent s'identifier et qu'on puisse développer des réseaux aux échelles locales, nationales et pourquoi pas.
Et international. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est hyper important. À mon avis, là, c'est important d'ouvrir la coordination nationale. Ça peut devenir une coordination internationale.
À ce propos, moi, j'ai été en contact avec des Chiliens l'an dernier. Ouais. Ils sont en train de, au 1er mai, on parle de Le Pen en France. Là-bas, ils sont en train de construire un syndicat des artistes avec des circassiens, beaucoup qui sont. Parce que le nouveau cirque là-bas fait énormément de mouvements depuis 10 ans. Et c'est eux qui sont un peu en. Moi, je vais les mettre en contact avec vous et puis c'est moi qui.
Bien sûr.
Je crois que la France a beaucoup, c'est un petit peu un modèle quand même. Hein. Donc je tiens beaucoup aussi à ce que les actions qui se passent en France soient connues à l'étranger pour, pas comme modèle, mais comme possibilité. Et c'est ça, voilà, le manip international qui va sortir. Et j'espère que ça va se poursuivre, la traduction en d'autres langues, ouais. Ça.
En espagnol. Pour rebondir là-dessus, comme premier oui. pas, et à la demande et à l'initiative de Greta, de Greta Goldman et Lucille Bodson quand elles sont revenues de Cuba,
oui.
à l'occasion du congrès intermédiaire de l'UNIMA. Du coup, on a passé un an et demi là, elles ont fait la rédaction en chef d'un manuel international qui a été traduit et relu par des bénévoles du réseau, activement les membres de TEMA. Et donc voilà, il existe en version numérique pour l'instant, mais ça va permettre justement aussi, à cette demande, de voir un peu la structuration française, le paysage, l'organisation, la pensée artistique, enfin, comment les choses se font, et peut-être à poursuivre.
Voilà, et juste une petite information, l'année prochaine aura lieu le grand congrès de l'UNIMA à Tolosa. Ce ne sera pas en Chine, à Tolosa, c'est donc tout près de la frontière française. Je vous conseille quand même d'y aller pour rencontrer des gens qui seront là de l'étranger et discuter. Bref, c'est fin mai, début juin.
Et quand est-ce que c'est la prochaine réunion des espaces intermédiaires?
Alors, on est donc, oui, ben, du coup, je peux quand même en dire un mot. En fait, y a une, donc, vous verrez sur le site, il y a une adresse, donc surtout si vous voulez recevoir nos infos, envoyez-nous un mail, enfin vraiment, on veut communiquer les infos. Comme, du coup, je ne vais pas rentrer dedans, mais vous le verrez sur la charte, hein, ça fait partie des engagements et des missions qu'on se donne, c'est vraiment accompagner les logiques de développement local, de mise en réseau, etc. On a vraiment souhaité s'appuyer sur ce qui se passe sur le terrain et en ce moment en Rhône-Alpes. Et d'ailleurs, Rhône-Alpes-Auvergne, il y a une grande dynamique de la Fédération des Arts de l'Art de Rhône-Alpes, du Synergie, du syndicat de l'Art vivant, de Art Vif, qui est aussi un réseau de mutualisation de compagnies qui travaille sur cette question des lieux intermédiaires. Ils sont extrêmement dynamiques, ils ont mis en place un espèce de questionnaire, ils vont rencontrer chacun des lieux, ils sont vraiment en train de créer quelque chose là, et donc on s'est dit que le prochain forum aura lieu en région Rhône-Alpes. On espère qu'il ait lieu mars-avril 2016, on sait que parfois les choses se reculent, mais en tout cas a priori sur premier semestre 2016, mais là vraiment l'idée c'est d'ouvrir le comité de pilotage, donc si vous souhaitez on vous met dans la boucle des informations, des petites à des réunions, etc. Enfin,
c'est et effectivement ces 10 réseaux qui sont en plus des autonomes, donc ça veut dire ça permet en fait, parce qu'on n'a pas de coordinateur de la coordination, donc du coup c'est pour ça que ça passe vraiment chacun par les réseaux déjà. Mais on s'est dit effectivement la dernière fois que ceux qui veulent rejoindre le comité de pilotage pour penser cette grosse rencontre, ce gros forum d'avril sont tout à fait les bons.
On devient membre, comment ça se passe?
Non, alors, nous, il y a 10 réseaux, donc bien sûr, si vous êtes membre d'un réseau, si vous voulez rejoindre un réseau, c'est possible. Mais par contre, la coordination, on s'est vraiment dit, en tout cas pour l'instant, c'est un espace de travail, donc on n'est pas membre. L'idée, c'est vraiment de souhaiter rejoindre la dynamique. Après, par contre, il y a cette charte, et si vous souhaitez, si vous reconnaissez dans cette charte, que vous soyez lié ou non, la possibilité de s'inscrire sur une cartographie. Mais on est vraiment sur une logique de reconnaissance et de souhait d'aller dans la même dynamique. Il n'y a pas de pas membre direct.
On ne souhaitait pas, on était déjà représentants de différents réseaux, fédérations, etc. Recréer une structure, etc.
plutôt de rester dans la logique d'action et que de formalisme. Donc si vous avez envie, hop, welcome. Voilà. Et c'est vrai que je trouve très intéressant, peut-être pour conclure par une question, cette ouverture à l'international, moi je trouve c'est super intéressant. Du coup, Tolosa, tu vois, je trouve que c'est très bien.
Moi, je connais maintenant.
Et puis après.
Tout le monde, et, oui, voilà, il y a d'autres personnes. Hein, plus américaines de Cuba qui est en train de construire. Non,
mais c'est vrai que cette dimension du coup internationale, au niveau de question des intermédiaires, ça large, je suis sûr que ça peut être dans le cadre du forum aussi, national. Dans toutes les manifestations, là, je pense qu'à mon avis, on a une piste de façon. On a des questionnements qui traversent, qui sont très communs. Même si les modes, les cultures,
oui, c'est
ça,
sûr,
mais
c'est
des,
sûr.
On est traversés ouais, par les mêmes.
C'est sûr. Oui.
Tu as une carte?
Oui, j'ai une carte.
Alors, voilà.
J'ai une carte.
Merci beaucoup.
Merci à tous.
Merci à vous.